Le programme qui va suivre vous est présenté par le ministère enseigne-moi.com. Soyez transformés par l'enseignement de la parole de Jésus-Christ.
C'est pourquoi en son nom, je pose les mains sur les malades et ils sont guéris.
Jésus macht frei.
Jésus libère.
Jésus rettet.
Jésus. Nous avons la parole de Dieu qui renverse des chaînes, des forteresses.
Tu passes du nom de chrétien au nom d'enfant de Dieu.
Je n'ai ni force, ni raison, ni sagesse pour me relever. Enseigne-moi.
Alors, la semaine dernière, nous avons écouté un message qui est très important, sur lequel je veux simplement aujourd'hui revenir, et puis encore enfoncer un peu les clous là-dessus. Insister, insister et insister. Amen. Je me suis rendu compte que la répétition, c'est extrêmement important. Se répéter dans ce qu'on dit, c'est extrêmement important pour que les choses puissent rentrer. Avec ma fille Sarah, je suis obligé de dire tout le temps, au moins 1000 fois dans la journée, ne touche pas. Parce qu'elle va rentrer dans les poubelles, elle va fouiller dans les toilettes, elle va... Je suis obligé de dire, ne touche pas, ne touche pas, ne touche pas. Jusqu'à un moment donné où quand tu dis ne touche pas, elle te regarde. Et puis elle sourit. J'ai dit d'accord, donc ça veut dire qu'elle finit par comprendre. Amen. C'est important de répéter. Alors... Je ne vais pas faire le résumé, moi je vais simplement surfer sur ce qui a été commencé la semaine dernière. Parce que je pense que c'est vraiment important d'expliquer aux gens qui est Jésus. Et qu'est-ce qui s'est passé à la croix? Amen. Qu'est-ce qui s'est passé à la croix? Nous avons parlé la semaine dernière, on va ouvrir nos Bibles à Isaïe 51. Nous avons parlé la semaine dernière de la coupe de la colère de Dieu. Pourquoi est-ce que Dieu était-il en colère? Je fais un bref résumé. Pourquoi est-ce que Dieu était-il en colère? Parce que simplement l'homme a désobéi. L'homme a péché. Et la Bible dit que le salaire du péché, dans Romains chapitre 6 au verset 23, la Bible dit que le salaire du péché, c'est la mort. À cause du péché d'Adam, nous avons tous péché. Il y a encore quelqu'un dans cette salle qui vient pour la fois peut-être et qui se dit, moi je n'ai rien fait, moi je suis juste, moi je suis bon, je n'ai tué personne, je n'ai volé personne, après tout, je n'ai fait de mal à personne. Mon ami, laisse-moi te dire une chose, la Bible dit que lorsque Adam péchait, tu étais aussi... Toi aussi, tu péchais. Pourquoi? Parce que tu étais en lui. Je ne me lasserai jamais de dire ça parce qu'il faut que ça finisse par rentrer. Comment est-ce que tu étais en lui? Ben, mon ami, la Bible dit que ce que tu fais n'impacte pas, n'affecte pas que toi-même. La Bible dit que les iniquités des pères se répercutent sur les enfants jusqu'à la troisième ou la quatrième génération. Pourquoi? Parce que il y a des choses que tu n'as pas faites en particulier, mais que ton père a fait. Mais en réalité, devant Dieu, c'est toi qui les as fait. Pourquoi? Parce que la Bible, tu étais en lui. Et un jour, la semence qui était à l'intérieur a été déposée dans le ventre de ta mère biologique, et ta mère biologique t'a mis au monde. Amen. Tout ce que ton père a fait, tu l'as fait. Tout ce que ton grand-père a fait, tu l'as fait. Tout ce que ton arrière-arrière-grand-père a fait, tu l'as fait. Tout ce que Adam a fait, tu l'as fait, je l'ai fait. Dites Amen. La Bible dit dans Hébreux chapitre 7 au verset 9 que Lévi, le fils de Jacob, a payé la dîme à Melchisédek. Or, quand vous lisez la Bible, vous vous rendez compte que Lévi n'a jamais rencontré Melchisédek. Mais Lévi était le fils de Jacob. Amen. Jacob avait 12 fils. Et en réalité, celui qui a rencontré Melchisédek, c'était Abraham, dans Genèse 14. Et la Bible dit que Lévi a payé la dîme à Melchisédek lorsqu'il était dans les reins de son père, Abraham. Ça veut dire que lorsque Abraham était en train d'obéir à Dieu, Lévi, qui était le quatrième descendant de Abraham, était aussi en train de payer la dîme à Dieu. C'est pour ça que mon ami, toi qui me regardes, tout ce que tu fais n'affecte pas que toi, ça affecte les gens qui sont au-dedans de toi, qui vont venir après. C'est à cause de ça qu'il y a des enfants qui vont naître et qui vont dire « Maudit soit mon grand-père, maudit soit mon père », parce que c'est à cause de lui que je suis dans cette galère aujourd'hui. Vous me suivez? C'est biblique. Alors pourquoi est-ce que la colère de Dieu, la coupe de la colère de Dieu? Parce que Dieu est un Dieu qui est juste. Dites Amen. Dieu est un Dieu de justice. Il est bon, mais il n'est pas bonbon. Il est doux, mais il n'est pas doudou. Alléluia. Alors, quand quelqu'un est juste, même quand il t'aime bien et que tu as fait le mal, tu dois payer. Dites Amen. Même si je suis juste, vous prenez un juge qui n'est pas corrompu, mais un juge qui est droit, qui est intègre, même si son fils a fait le mal, même s'il aime son fils, le problème c'est que lorsqu'il se retrouve au tribunal, ce n'est pas lui qui juge son fils. C'est la loi qu'il est obligé lui-même d'appliquer. Parce que c'est la loi qu'il doit suivre. Dieu a défini une loi, même s'il t'aime. Le fait que tu transgresses cette loi, c'est que tu es obligé de payer. le prix. Tu es obligé de subir un châtiment. Et la Bible dit que le salaire du péché, c'est la mort. Alors, nous avons parlé de cette coupe de la colère de Dieu. Nous avons parlé de l'Ancien Testament. Enfin, acheter la cassette. C'est quoi le titre de du message? L'amour de Dieu. Acheter la cassette, l'amour de Dieu, c'est extrêmement important. Amen. Alors, nous avons vu dans Ésaïe 51, au verset 22, nous avons lu ce passage qui dit, ainsi parle ton Seigneur, l'Éternel, ton Dieu qui défend son peuple. Voici, je prends de ta main la coupe d'étourdissement, la coupe de ma colère, tu ne la boiras plus. Amen. Nous avons vu que Dieu est un et indivisible. Dieu, sachant que l'homme ne pouvait pas du tout payer, répondre aux exigences, aux critères de sainteté et d'intégrité, de pureté de Dieu. Dieu a dû lui-même descendre sur la terre pour se faire lui-même justice. Amen. Pour se faire justice, c'est-à-dire quoi? Parce que, rappelez-vous, Genèse chapitre 1 et 2, c'est le dessein parfait de Dieu. Genèse chapitre 3 jusqu'à Apocalypse 22, c'est le plan de réparation de Dieu. Pour ramener l'homme dans la position qu'il avait auparavant, c'est-à-dire la position de règne, de gouvernement, d'autorité sur la terre. Alléluia. Alors aujourd'hui, je vais continuer simplement ce que mon frère a commencé la semaine dernière. Et puis, je vais parler avec vous d'un sujet qui est très important. C'est ce qu'on appelle l'échange divin. Dis à ton ami, l'échange divin. L'échange divin, c'est quoi? L'échange divin, c'est simplement, qu'est-ce qui s'est passé à la croix? Nous avons vu la semaine dernière pourquoi Jésus a dû aller à la croix. Mais on va voir aujourd'hui, petit enseignement, qu'est-ce qui s'est passé à la croix? Nous ne le finirons pas aujourd'hui, nous le commencerons seulement. Amen. Mais avant ça, permettez-moi, toujours dans Ésaïe 51, de vous expliquer exactement qui est Jésus-Christ. Amen. Ésaïe 51, verset 5. On va lire quelques versets. Préparez-vous à tourner vos bibles. On va lire quelques versets. Donc, comprenez bien, l'homme est tombé. Il est tombé d'où? Il est tombé de la position dans laquelle Dieu l'avait placé. Amen. Alors maintenant, suivez-moi bien. Je vais quelque part. Verset 5, Ésaïe 51. Ma justice est proche, mon salut va paraître, et mes bras jugeront les peuples. Les îles espéreront en moi, elles se confieront en mon bras. Amen. Vous soulignez le mot bras. Verset 9. Réveille-toi de force, bras de l'Éternel. Vous soulignez encore bras de l'Éternel. Réveille-toi comme au jour d'autrefois, dans les anciens âges. N'est-ce pas toi qui as bâti l'Égypte, qui transperça le monstre? Amen. Maintenant, vous tournez à Ésaïe 53. Mais avant de lire Ésaïe 53, on va lire Ésaïe 59, verset 16. 59, verset 16. Ça, c'est le constat que nous avons déjà fait la semaine dernière. Lorsque Dieu regarde la terre, Dieu voit qu'il n'y a aucun homme qui est capable de répondre à ses critères de sainteté et de pureté. Dieu voit qu'il n'y a aucun homme qui est capable de payer le prix. Aucun ange, en parenthèse, même aucun ange ne pouvait faire ce que Jésus a fait. Il fallait que Dieu lui-même descende sur la terre pour faire ce qu'il fallait faire. Amen. C'est-à-dire pour racheter l'homme. Amen. Alors, Ésaïe, chapitre 59, verset 16. Regardez ce qu'il est écrit. Il est écrit, il voit qu'il n'y a pas un homme. Il s'étonne de ce que personne n'intercède. Alors, son bras lui vient en aide. Et sa justice lui sert d'appui. Là encore, vous soulignez, son bras lui vient en aide. Amen. Alors maintenant, on va à Ésaïe 53, quelques pages auparavant, quelques pages précédemment. Ésaïe 53, je lis simplement le verset 1. Qui a cru à ce qui nous était annoncé? Qui a reconnu le bras de l'Éternel? Amen. Au verset 2, il est écrit, il s'est élevé devant lui comme une faible plante, comme un rejeton qui sort d'une terre desséchée. Il n'avait ni beauté ni éclat pour attirer nos regards et son aspect n'avait rien pour nous plaire. Méprisé et abandonné des hommes de douleur et habitué à la souffrance, semblable à celui dont on détourne le visage. Nous l'avons dédaigné, nous n'avons fait de lui aucun cas. Cependant, ce sont nos souffrances qu'il a portées, c'est de nos douleurs qu'il s'est chargé. Verset 5. Mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. Nous étions tous errants comme des brebis, chacun suivait sa propre voie. Et l'Éternel a fait retomber sur lui l'iniquité de nous tous. Dites Amen. Ça, il est en train de parler de Christ. Amen. Mais regardez, il commence au verset 1 par « Qui a reconnu le bras de l'Éternel ?» Maintenant, vous prenez le chapitre précédent. Ésaïe 52, verset 10. Ésaïe 52, verset 10. Je dis « L'Éternel découvre le bras de sa sainteté aux yeux de toutes les nations. Et toutes les extrémités de la terre verront le salut de notre Dieu. » Amen. L'Éternel découvre le bras de sa sainteté aux yeux de toutes les nations. Alors, l'image que le Seigneur m'a donnée, elle est simple. C'est, regardez, quand quelqu'un est par terre, ok? Lorsque l'homme était par terre, Dieu, qu'est-ce qu'il fait pour relever l'homme? Il lui tend son bras. Vous me suivez? Et ce bras de l'Éternel, il tend le bras pour relever l'homme. Vous me suivez? Alors quelqu'un me dira, mon frère, heureusement qu'il a mis la précision la semaine dernière, pour dire que le bras de l'Éternel, c'est l'Éternel. Enfin, si tu arrives à voler, et tu dis, c'est pas moi qui a volé, c'est ma main. C'est pas moi, moi je suis pour rien, moi je n'ai rien fait, c'est ma main qui a volé. Mon ami, ta main est associée à toi-même, vrai ou faux? Amen. Ta main, c'est toi. Vous me suivez? Le bras de l'Éternel, c'est simplement l'Éternel. Mais on l'appelle également dans la Bible Emmanuel. Emmanuel, qui veut dire avec nous, elle qui veut dire Dieu, en hébreu. Amen. Comme Bethel, qui veut dire bête, et puis elle. Bête, qui veut dire maison, en hébreu, et puis elle qui veut dire Dieu, la maison de Dieu. Alléluia. Donc, Jésus-Christ, il faut que ce soit clair dans nos cœurs, là, et puis là. Jésus est Dieu fait chair. La Bible dit, Dieu était en Christ, réconciliant le monde avec lui-même. Tu ne pouvais pas boire la coupe de la colère de Dieu. Je ne pouvais pas la boire. Dieu savait que tu ne pouvais pas. Et dans l'Ancien Testament, tout ce qu'on faisait comme sacrifice d'expiation, en sacrifiant des taureaux, en sacrifiant des veaux, couvrait les péchés, mais n'effaçait pas les péchés. Amen. Et il a fallu que Dieu lui-même décide. Il avait dit alors, dans Ésaïe 59 qu'on a lu tout à l'heure, l'Éternel regarde de ce qu'il est écœuré, de ce que personne n'intercède, nul ne pratique la justice, nul ne fait le bien, tous sont pervertis, tous sont corrompus. Alors, son bras lui vient en aide. Alors, Dieu retrousse ses manches et il dit, je vais le faire moi-même. Je vais descendre sur la terre et je vais racheter l'homme. Alléluia. Alors, aujourd'hui, j'ai envie de voir avec vous, qu'est-ce qui s'est passé lorsque Jésus était à la croix? On vous a dit la dernière fois que Jésus, c'était Dieu fait chair. En hébreu, Jéhoshua. Ça veut dire l'Éternel sauve. Bon, maintenant, qu'est-ce qui s'est passé à la croix? Je vais vous donner aujourd'hui, c'est un enseignement très simple. J'ai envie de dire, c'est ce qu'on appelle les ABC. Vous savez, ce qui me touche beaucoup, c'est que la vie chrétienne ne commence... Alors, il y a des gens qui s'attendent, ils acceptent le Seigneur, et commencent tous à courir. La vie chrétienne ne commence pas par la course, la vie chrétienne commence par le repos. Vous me suivez? Dans l'Ancien Testament, les gens étaient habitués à travailler à partir du dimanche jusqu'au vendredi, et le samedi, c'était le jour du sabbat, Shabbat. Ils se reposaient le samedi. Mais depuis que Christ est ressuscité, les juifs chrétiens ont changé d'habitude. Ils ont commencé à travailler le lundi et à se reposer le dimanche. Vous savez que, il y en a qui ne savent pas que dimanche, c'est le premier jour de la semaine. Il y en a qui pensent que c'est lundi. Laissez-moi vous dire que, si vous n'avez pas, apprenez-le. Dimanche, c'est le premier jour de la semaine. Mais voyez-vous, depuis le temps de l'Église primitive, le dimanche est devenu un jour de repos. Pourquoi? Parce que lorsqu'on vient à Christ, des fois, il faut d'abord savoir s'arrêter pour comprendre qui est Jésus et qu'est-ce qu'il a fait pour moi. Si tu ne sais pas ce que Jésus a fait, tu vas vouloir refaire ce qu'il a déjà fait. Dites Amen. C'est extrêmement important de t'asseoir. Là, je vais vous donner aujourd'hui les ABC, les fondements de la foi chrétienne. Pour ceux qui viennent à Christ, il y a un héritage. Pour ceux qui viennent à Christ, il y a quelque chose qui s'est passé. À la croix, voyez-vous, pendant que Jésus était en train d'être crucifié à la croix, il y avait un transfert que Dieu était en train d'opérer. Il vous expliquait la dernière fois que lorsque le souverain sacrificateur rentrait dans le lieu très saint, une fois par an, il prenait deux agneaux, ou deux boucs, ou deux veaux, peu importe. Il prenait deux animaux, l'un d'eux était complètement égorgé, et puis son sang permettait de rentrer dans le lieu très saint pour présenter. En fait, c'est ce qu'on appelait l'expiation. Le but de ce sang, c'était simplement pour dire, je ne suis pas, moi, normalement, c'est moi qui devrais mourir, mais j'offre le sang de l'agneau Allah à ma place. Et puis, il a dit qu'il y avait un deuxième animal sur lequel le souverain sacrificateur prenait et puis il imposait les mains. Et quand il a imposé les mains en son nom et au nom du peuple, qu'est-ce qu'il faisait? Il transférait tous les péchés du peuple sur cet animal. Dites amen. Il transférait toutes les malédictions, toutes les maladies, toutes les douleurs, tout ce que Dieu haïssait à cause de leurs péchés, il l'imputait directement sur l'animal. Et c'est exactement ce que Dieu a fait à la croix avec Christ Jésus. Il n'avait rien fait. Il était 100% juste. Il a même dit, qui de vous me convaincra de péché? Personne ne pouvait répondre. Personne ne pouvait lui dire, ça, ah, aujourd'hui, il a mal parlé, on l'a entendu. Personne ne pouvait le confondre. Personne ne pouvait le dire. Il était complètement intouchable. Et il n'empêche qu'il est parti à la croix alors qu'il n'avait rien fait pour toi et pour moi. Amen. Alors, qu'est-ce qu'il y a eu à la croix comme échange divin? Le premier point, on va voir trois points, j'espère, aujourd'hui. Le premier point que je partage avec vous, on va ouvrir nos Bibles. Alors, remarquez, on va rester à Isaïe 53. On va rester à Isaïe 53. Le premier point qu'il y a eu à la croix, c'est que pendant que Jésus était à la croix, premier point, Jésus a pris mon châtiment et il m'a donné la rémission des péchés. C'est le premier point. Jésus a pris mon châtiment. Pourquoi? Je le redis, Romains 6, verset 23. La Bible dit que le salaire du péché, c'est la mort. Tu aurais dû mourir, j'aurais dû mourir. En réalité, celui qui aurait dû être crucifié à la croix, c'est pas lui, c'est toi et moi. Amen. La Bible dit qu'il a pris mon châtiment. On va ouvrir nos Bibles, on va lire à 2 Corinthiens chapitre 5, verset 21. Qui va être notre verset de base. 2 Corinthiens chapitre 5, au verset 21. Le premier point. On a lu tout à l'heure dans Isaïe 53, je crois que c'est le verset 4. Je ne m'appelle plus verset 4 ou 6. Le châtiment qui me donne la paix est tombé sur lui. Il y avait un châtiment que tu méritais et que je méritais, qu'il a pris sur lui. Et lorsqu'il a pris sur lui notre châtiment, il nous a communiqué la rémission des péchés. 2 Corinthiens, chapitre 5, verset 21. Quoi, il y en a qui ne trouvent pas 2 Corinthiens? 2 Corinthiens, c'est dans le Nouveau Testament. C'est entre Genèse et Apocalypse. 2 Corinthiens 5, verset 21. Celui qui n'a point connu le péché, il l'a fait devenir péché pour nous, afin que nous devenions en lui justice de Dieu. S'il vous plaît, ce verset dans vos Bibles, mettez-le haut, au stabilo. Celui qui n'a point connu le péché, Dieu l'a fait devenir péché, à cause de toi et de moi, pour que, en lui, nous devenions justice de Dieu. Jésus nous a accordé la rémission. Romains chapitre, je continue avec Romains chapitre, on va pas le lire, je vais simplement vous donner la référence. Romains 3, verset 24. Pour ceux qui veulent lire à la maison. Jésus a pris mon châtiment et il m'a communiqué la rémission des péchés. Qu'est-ce que veut dire la rémission des péchés? Dans rémission, il y a le mot remettre. Remettre les péchés, ça ne veut pas seulement dire pardonner. Vous me suivez? Hébreux chapitre 9, verset 22 et Hébreux chapitre 10, verset 18. Prenez des notes, s'il vous plaît. Remettre les péchés ne veut pas seulement dire pardonner. Pardonner, ça veut dire, ok, tu as fait ça, on n'en parle plus, c'est oublié. Vous me suivez? Remettre les péchés veut dire que la preuve même de l'existence du péché est complètement annulée. C'est-à-dire que quand on remet un péché, on fait comme ça. On supprime tout. C'est comme remettre une dette. Amen. Quand on te remet une dette, si quelqu'un te remet une dette un jour et puis il vient encore te dire, donne-moi l'argent que tu me dois, tu dis, tu es un menteur. Tu m'as remis la dette. Ça veut dire que complètement effacé. Elle n'existe plus. Toute trace de cette dette a disparu. Amen. Alors, ça veut dire quoi? Ça veut dire que lorsque tu as reçu Jésus dans ta vie, comprends que la Bible dit, péchés ont été remis. Donc, comme vous allez lire Hébreux chapitre 9, verset 22, il parle du mot pardon. Mais en réalité, le mot grec qui est utilisé là, il veut aussi dire remettre complètement, c'est-à-dire effacer les péchés. Et s'il efface les péchés, tu n'as pas à t'en souvenir. Il y a beaucoup de gens qui, parce qu'ils n'ont pas la connaissance, le diable vient, il t'accuse, il te dit, ah, ton péché là, il est tellement grave. Tu as vu ce que tu as fait? Tu as tué des enfants. Tu as tué une personne, tu as fait ci, tu as fait ça. Et toi, tu te dis, mais de toute façon, tu peux pas me pardonner parce que j'ai trop péché. Mon ami, Dieu peut te pardonner et il t'a pardonné. La Bible dit qu'il a effacé. Amen. Crois-le simplement. La Bible dit qu'il a effacé tes péchés. Alors, refuse la condamnation. Refuse de te sentir coupable par rapport à ce que tu as déjà fait. Parce que la Bible dit que Dieu ne s'en souvient plus. Quand tu vas devant Dieu, tu lui dis, aujourd'hui, Seigneur, je te demande pardon, il accepte le pardon. Lorsque demain, je ne dis pas par rapport au péché que tu as fait aujourd'hui, par rapport au péché que tu as fait il y a 10 ans, tu repars voir le Seigneur, tu dis, Seigneur, il y a 10 ans, j'ai fait ce péché. J'ai dit, de quoi tu parles? Dieu a dit, mais de quoi tu parles? Je ne sais pas de tu parles de quoi. Il ne s'en souvient plus parce qu'il a complètement effacé. Amen. Alors ça, c'est le premier point. Maintenant, je viens au deuxième point qui a intéressé beaucoup d'entre nous. Qu'est-ce qui s'est passé à la croix? Regardez, posez-vous toujours la question. Qu'est-ce que Jésus a pris et qu'est-ce qu'il m'a communiqué en échange? Amen. Le deuxième point. À la croix, Jésus a pris ma pauvreté et m'a communiqué son abondance. Dites amen. Ça vous intéresse pas de comprendre ça? Ok, bon, je passe. Celui qui veut rester broke, celui qui veut rester broke financièrement, ça le regarde. Mais on va lire 2 Corinthiens chapitre 8. 2 Corinthiens chapitre 8, verset 9. Et, excusez-moi, en parenthèse, ici, il ne parle pas de la pauvreté spirituelle. Parce que le contexte dans lequel il parle, suivez-moi bien, le contexte dans lequel il parle ici, l'apôtre Paul parle ici, il parle de la pauvreté matérielle. Le mot grec dont il parle, c'est le mot ptokos, qui veut dire fauché, misérable, démuni, dépouillé, exécrable. Non, exécrable, c'est moi qui ai rajouté. Amen. 2 Corinthiens 8, verset 9. Je vais vous faire lire ce verset à haute voix. Parce que chacun doit connaître, doit comprendre ce verset. Amen. On va le lire ensemble. 2 Corinthiens 8, verset 9. Tu n'as pas trouvé 2 Corinthiens, donne un euro à ton voisin et tu lui dis, s'il te plaît, ne le dis pas à haute voix. 2 Corinthiens 8, verset 9. On va le lire. Tous ensemble. Car vous connaissez la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ qui pour vous s'est fait pauvre, de riche qu'il était, afin que par sa pauvreté, vous soyez enrichi. C'est ce qu'on appelle un échange. Vous me suivez? Vous connaissez la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, qui pour vous s'est fait pauvre, afin que par sa pauvreté, vous prenez la richesse. Amen. Alors, si toi tu veux pas ça, en tout cas ça, je prends ça pour moi. J'ai dit, Seigneur, moi je prends cette parole-là, je refuse la pauvreté dans ma vie. Vous me suivez? Ce n'est pas que tu le mérites. C'est que quand il était à la croix, alors quelqu'un me dira, mais à quel moment Jésus était pauvre? À quel moment il était pauvre? Sur la terre, il était pauvre? Est-ce qu'il a manqué de quelque chose? Quelqu'un, il n'a pas de problème. Il arrive quelque part, même là où tu donnes un pain, il transforme le pain, il donne à manger à 5000 personnes. Et en plus qu'il a donné à manger à 5000 personnes, il restait encore 12 paniers. Vous me suivez? Alors à quel moment il était pauvre? Et au fait, comment va-t-on définir la pauvreté? Alors, on va lire Deutéronome chapitre 28. Deutéronome chapitre 28 est un passage que j'aime beaucoup. Malheureusement, beaucoup de chrétiens aiment seulement Deutéronome chapitre 28 à partir du verset 1 jusqu'au verset 14. Moi, j'aime beaucoup lire à partir du verset 14 jusqu'au verset 68. Vous savez pourquoi? Parce que c'est toute la liste des malédictions qui vont s'attacher à toi lorsque tu désobéiras à l'Éternel ton Dieu. Beaucoup de chrétiens, dès qu'ils voient, tu seras maudit, dit, tu seras maudit là, tu seras maudit, maudit, tu vas avoir une femme, quelqu'un d'autre va profiter d'elle, tu vas avoir des enfants, ils vont être esclaves, tu as l'argent, tes poches seront trouées. Mais il faut lire ça. Amen. Deutéronome 28, verset 48. Regardez, lorsqu'on parle de pauvreté, regardez ce que Dieu dit. Ça, c'est l'une des malédictions que Dieu promet à ceux qui vont désobéir à sa parole. Tu serviras au milieu de la faim, soulignez la faim, de la soif, soulignez la soif, de la nudité, soulignez nudité, et de la disette de toutes choses, tes ennemis que l'Éternel enverra contre toi. Amen. La faim, la soif, la nudité. Quand quelqu'un a faim, il ne peut pas manger. Lorsqu'il a soif, il ne peut pas boire. Lorsqu'il est nu, il n'a pas de quoi se vêtir. Et en plus, il vit dans le manque permanent. Ça, c'est ce qu'on appelle la pauvreté extrême. Vous me suivez? C'est la pauvreté extrême. Et la Bible dit que tous les quatre points que je veux mentionner, Jésus les a vécus dans son corps. Quand il était à la croix. Vous me suivez? Il avait faim, on ne lui a pas donné à manger. Il avait soif, les gens se sont moqués de lui. On l'a mis nu. On l'a simplement laissé avec un petit truc. Je ne sais pas qu'on appelle ça. Un petit tissu. Mais il a connu la nudité. Et il a manqué de tout à la croix. Amen. Il a manqué de tout à la croix. Pourquoi? Pour que toi, tu puisses rentrer dans ce qu'on appelle l'abondance. Jean 10, verset 10, il dit, je suis venu pour que mes... Il dit, l'ennemi ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Mais moi, je suis venu pour que mes brebis aient la vie et qu'elles soient dans l'abondance. Amen. Quand je comprends ça, je dis, j'ai compris que Seigneur, tu veux que je sois dans l'abondance. Il n'a pas dit, il veut que je sois milliardaire. Non. Il a dit, il veut que je sois dans l'abondance. Amen. Alors, quelqu'un me posera la question, mais pourquoi est-ce que les gens sont toujours pauvres? Regardez. Regardez. Ouvrez avec moi à Matthieu. Matthieu chapitre, chapitre 4. Aujourd'hui, on va tourner un peu dans la Bible. Chapitre 4, à partir du verset 18. Non, j'ai dit Matthieu, pardon, excusez-moi, c'est Luc. Excusez-moi. Luc chapitre 4, verset 18. Et après, on ira à Matthieu chapitre 11. Luc chapitre 4, verset 18. L'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a oint pour annoncer la bonne nouvelle aux pauvres. Dites Amen. L'Esprit du Seigneur est sur moi car il m'a oint pour annoncer la bonne nouvelle aux pauvres. Le pauvre ici, c'est le même mot que vous retrouvez dans 2 Corinthiens chapitre 8, verset 9. Il ne parle pas des pauvres en esprit. Il parle des pauvres qui sont des gens qui sont dépouillés, qui sont fauchés, qui n'ont rien. Est-ce que vous me comprenez? Maintenant, on va aller dans Matthieu chapitre 11. Je fais une petite révision. Matthieu chapitre 11. Je veux simplement vous démontrer ça par la parole. Regardez. À partir du verset 2. Jean, ayant entendu parler dans sa prison des œuvres du Christ, lui fit dire par ses disciples, « Es-tu celui qui doit venir ou devons-nous en attendre un autre ?» Jésus leur répondit, « Allez et rapportez à Jean ce que vous entendez et ce que vous voyez. » Jean fait demander à Jésus, « Est-ce que c'est toi le vrai Messie qu'on doit attendre ? Ou est-ce qu'il faut attendre quelqu'un d'autre ?» Alors regardez la réponse de Jésus. Il lui dit, « Allez, il dit, voyez ce qui se passe ici et allez dire à Jean ce que vous voyez. » Premièrement, verset 5, « Les aveugles voient. » Dites Amen. Est-ce qu'ils sont encore aveugles? Les boiteux marchent. Est-ce qu'ils sont encore boiteux? Non. Il est en train de parler des œuvres de Christ. Les lépreux sont purifiés. Est-ce qu'ils sont encore impurs? Non. Les sourds entendent. Est-ce qu'ils sont encore sourds? Non. Les morts ressuscitent. Est-ce qu'ils sont encore morts? Non. Et la bonne nouvelle est annoncée aux pauvres. Question. La bonne nouvelle était annoncée aux pauvres. Est-ce que vous croyez qu'ils restaient encore pauvres? Moi, je sais qu'il y en a parmi vous qui n'ont pas compris. Mais réfléchissez. Réfléchissez au contexte. Excusez-moi, mais c'est évident. Est-ce qu'une fois que la bonne nouvelle est annoncée aux pauvres, les pauvres restent pauvres? Non. Pourquoi? Parce que lorsque Jésus enseigne, il y a forcément un changement de mentalité. C'est pour ça qu'il leur dit, repentez-vous, car le royaume des cieux est proche. Repentez-vous, ça veut simplement dire changer de mentalité. Alors ceux qui comprenaient ce que disait Jésus, changeaient automatiquement de mentalité. Alors je pose la question, pourquoi est-ce que beaucoup de chrétiens sont encore pauvres aujourd'hui? C'est parce que, premièrement, ils n'ont pas changé de mentalité. Je me suis rendu compte que, vous savez, le christianisme est né sous les cendres du judaïsme. Vous me suivez? Il y a 2000 ans, lorsque le christianisme est né sur les cendres du judaïsme. C'est pour ça qu'on a l'Ancien Testament et le Nouveau Testament. D'accord? On a aucun problème à concevoir le fait que les Juifs, ils ont l'argent, ils sont dans l'abondance. Si vous ne savez pas, regarde, va à ta banque. Demande qui le PDG, on te dira que c'est un Juif. Le président de la Banque Centrale Européenne, c'est un Juif. Enfin, c'était, je ne sais plus qui c'est aujourd'hui. Le président de la Fédérale Réserve, la Banque Centrale Américaine, c'est un Juif. Et vous savez que Hitler a voulu faire tuer les Juifs. Une des raisons pour lesquelles Hitler a voulu mettre à mort tous les Juifs, c'est parce qu'il s'est rendu compte que les Juifs détenaient toute la richesse de l'Allemagne. Dites Amen. Alors, on n'a pas de mal à comprendre que ces gens-là soient à la fois pieux, qui craignent Dieu, mais en même temps qu'ils soient dans l'abondance. Et les chrétiens de l'Église primitive n'avaient pas de problème avec ça. Ils n'avaient pas de problème avec ça. Jusqu'à ce que la religion, jusqu'à ce que le christianisme devienne la religion d'État, et qu'en fait, on fasse comprendre aux gens que, bon, écoutez, vous ne soyez pas riches. Enfin, jusqu'à ce qu'on véhicule aux gens la perception selon laquelle être riche, être dans l'abondance, et puis en même temps être croyant était complètement incompatible. résultat de cela, on a fait fuir beaucoup de chrétiens qui étaient riches. On les a fait aller vers la franc-maçonnerie, vers la Rose-Croix, vers beaucoup d'autres endroits, mais ils ont quitté l'église. Pourquoi ? Parce que l'église les a mis mal à l'aise. Mais en fait, lorsqu'on étudie la Bible, ça n'a rien de contradictoire. Alors les gens disent, oui, la Bible dit qu'il est plus facile à un chameau de passer par le trou d'une aiguille qu'à un riche d'entrer dans le royaume des cieux. Oui, mais il n'a pas dit qu'il a... Mais... faut étudier la Bible. Beaucoup de gens... Abraham était riche. Amen. Isaac était riche. Jacob était riche. David était riche. David était immensément riche. Salomon, n'en parle même pas. Salomon, c'était l'insolent. C'est-à-dire, quand tu rentres chez lui, tu regardes, tu dis, c'est pas normal, ça. C'est pas juste. Amen. Mais laissez-moi vous dire une chose. La Bible dit oui. Il y en a qui disent oui. La Bible dit que l'argent est la racine de tous les maux. C'est pas l'argent la racine de tous les maux. C'est l'amour de l'argent. Mais vous savez qu'on peut être broke, on peut être fauché financièrement, et puis aimer l'argent aussi. D'ailleurs, je vous dis une chose. Celui qui est pauvre est beaucoup plus menacé par la cupidité que celui qui est riche. Vous savez ça? Celui qui est pauvre est beaucoup plus menacé par la cupidité que celui qui est riche. Pour venir ici, tu n'as pas parlé en langue et puis tu ne l'as pas flotté dans les airs, mon ami. Tu as dû prendre un moyen de transport. Alléluia. Dis à ton voisin, la richesse, c'est bon. Si tu n'es pas d'accord, il n'y a aucun problème. Fais-moi un chèque tout de suite. Débarrasse-toi de tout ce que tu as et tu me donnes. Moi, je prends. Amen. Pourquoi est-ce que les chrétiens sont toujours pauvres? Vous savez, il y a plusieurs raisons, hein. On va pas les voir ici aujourd'hui. Mais je vous donne simplement quelques raisons faites. Beaucoup de gens ne sont pas d'accord avec ce que je dis. Mais vous savez, le problème c'est que, sans vision, on va nulle part. Avant d'arriver quelque part, il faut d'abord que tu le vois. C'est pour ça que Dieu dit à Abraham, regarde d'abord les étoiles. Telle sera ta postérité. Pourquoi? Parce que lorsque Dieu veut t'emmener quelque part, il veut d'abord que tu regardes l'endroit où tu vas. Amen. La plus grosse tragédie sur la terre, je le redis encore, ce n'est pas de ne pas avoir d'argent, c'est de ne pas avoir de vision, de ne pas savoir où tu vas. Amen. Beaucoup vont rester pauvres parce que de toute façon, aujourd'hui, ils se disent, ah, de toute façon, moi, ça m'intéresse pas, moi, je veux seulement rester spirituel. Oh, l'argent, c'est bon. Est-ce que vous savez que la Bible dit, dans Ecclésiaste, que l'argent répond à tout? C'est dans la Bible, hein? C'est dans Ecclésiaste. Je ne m'en rappelle plus le passage, mais... Trouve-moi le passage si tu peux. Comment? Ecclésiaste chapitre 7, verset 9 à 10. Voilà, la Bible dit l'argent répond à tout. Vous me suivez? L'argent, c'est pas bon. L'argent, c'est pas mauvais. L'argent n'a rien de mauvais. L'argent revêt toujours le caractère de la personne qui le tient. Dites amen. Notez ça. L'argent revêt toujours le caractère de la personne qui le tient. L'argent entre les mains de quelqu'un qui aime la libéralité, qui est rempli d'amour, va servir pour une bonne cause. L'argent entre les mains d'un drogué va être mauvais, parce qu'il va acheter la drogue avec. Vous me suivez? L'argent entre les mains d'un criminel est mauvais, parce qu'il va acheter des armes pour tuer les autres. Mais l'argent entre les mains d'une église qui a compris, qui veut faire avancer le règne de Dieu, c'est une bonne chose. Amen. Ecclésiaste 10, 19, c'est pas 7. C'est 10, 19. Alléluia. Deuxième raison pour laquelle les gens ne vivent pas ces choses. Pourquoi les gens restent pauvres, les chrétiens restent pauvres? Parce qu'ils ne comprennent pas les principes de Dieu. Et ils n'obéissent pas aux principes de Dieu. Amen. Mes bien-aimés, Dieu est un Dieu de principes. Il y a des choses, un principe c'est simplement une loi établie par Dieu. Un principe c'est une loi. Ok? Une loi établie pour expliquer comment fonctionne quelque chose. Dieu est un Dieu de principe. J'ai été frappé la fois dernière de regarder dans Josué, lorsque Dieu dit à Israël, allez conquérir Jéricho, ne touchez rien à Jéricho. Jéricho m'appartient. Ne prenez rien à Jéricho. Le peuple, il part, il va à Jéricho, et puis il y en a une personne qui s'appelait Akan, qui désobéit. Et parce qu'il a désobéi, Dieu a puni tout le peuple. Ils sont allés combattre, Jéricho c'était une très grande ville à l'époque. C'était une très grande ville. Non, mais au début, ils sont allés conquérir Jéricho, Akan a pris ce qui était interdit. Et puis après, lorsqu'ils vont combattre les gens de Haï, ils ont été défaits, 3 millions de personnes contre 3 000 personnes environ, disent les théologiens. Ils ont perdu quand même. Vous me suivez? Pourquoi? Parce qu'ils avaient violé un principe. Quel était ce principe? Dieu dit, les prémices, c'est-à-dire les premiers fruits de ton sol, de tes enfants, de ton bétail, de ton troupeau, de tes récoltes, tout ce qui est premier, fruit, c'est pour moi. Vous me suivez? Le reste, c'est pour toi. C'est pour ça que dans l'Ancien Testament, les premiers enfants d'une famille étaient consacrés à Dieu. Les premiers fruits d'une récolte étaient consacrés à Dieu. Tout ce qui était premier était donné à Dieu. Pourquoi? C'est ce qu'on appelle la loi des prémices. Pourquoi? Parce que lorsque le premier était confié à Dieu, Dieu le sanctifiait. Et tout ce qui venait après le premier, donc tous les autres qui venaient, étaient bénis par Dieu. Dites Amen. Adam était le premier homme. Lorsque le premier homme a échoué, tous ceux qui sont venus après lui ont échoué. Christ est le premier et le dernier Adam. Tous ceux qui viennent en Christ ont la main, la faveur de Dieu sur eux. Pourquoi? Parce que la Bible dit que Christ est les prémices de ceux qui sont morts. Dites Amen. Alors me direz, mais quel est le rapport avec Jéricho? Jéricho était la première ville de Canaan. Jéricho était la première ville de Canaan. Et Dieu disait, tout ce qui est prémisse, premier, c'est pour moi. Ne touchez pas. Parce que lorsque vous obéissez, vous me donnez ce qui est premier, je mets ma main dessus, je le sanctifie, tout le reste est béni. Ils auraient obéi, toutes les autres villes, ils les possédaient. Mais ils ont désobéi. Alors, qu'est-ce que Josué fait? Josué, il fait comme les chrétiens super spirituels d'aujourd'hui. Il vient et puis il décrète 40 jours de jeûne. On va prier, chercher la face du Seigneur. Dieu doit répondre. Laissez-moi vous dire une chose. Dans un principe, souvent, non, c'est pas la peine de jeûner pendant longtemps. Il faut seulement comprendre le principe et puis obéir. Quand une voiture est en panne, enfin, quand la voiture n'a plus de carburant, tu sais, tu peux venir faire la main comme ça. Au nom de Jésus. Voiture, tu dois démarrer. Voiture, je te l'ordonne. Que le ministère des anges soit libéré maintenant tout de suite. La voiture va pas démarrer. Il faut que tu prennes un bidon de carburant, d'essence ou de gasoil et tu la mets dans ta voiture. Prout, tu mets et puis ça va démarrer. Pourquoi? Parce que la voiture fonctionne selon un principe. Amen. Et le principe là, il était quoi? C'est simple. Tout ce qui est premier fruit t'appartient. En parenthèse, je ne sais pas si vous le savez. La dîme, quand Dieu demande la dîme, c'est le premier fruit. C'est les prémices de tes revenus. Amen. Et quand il y a un principe qui est violé, c'est pas la peine de prier, c'est pas la peine de jeûner. Obéis seulement. Tu n'obéis pas, mon frère. En toute humilité, je te dis, rendez-vous dans 5 ans ou dans 1 an. On va voir où tu en seras, comment tu auras avancé. Mais je suis sûr que tu n'avanceras nulle part. Parce que, simplement, la Bible dit, Dieu a dit, le ciel et la terre. Ma parole. Ce que j'ai dit, ça s'accomplira. Là, j'ai dit, Seigneur, mon cas, moi, c'est un cas particulier. Tu comprends, c'est à cause de cette situation-là. Dieu dit, ma fille, tais-toi. Tu ne comprends pas. Quand tu donnes le premier fruit, c'est pas pour te vider, c'est pas pour te dépouiller, c'est pour mettre ma main dessus pour que tout le reste soit béni. Amen. Donc, la désobéissance. Bon, l'autre problème pour lequel, je ne suis pas en train de parler d'argent, hein, je fais simplement un petit point dessus, on en reparlera prochainement. Mais il y a aussi des fois, vous savez, la dîme, pour ceux qui ne savent pas. Avant de construire une maison, on établit la fondation. D'accord? Une fois qu'on a mis la fondation, la dîme, pour ceux qui savent pas, c'est 10%, pardon, du revenu. Lorsqu'on met la fondation, après on peut mettre les murs. Et la dîme, pour Dieu, c'est la fondation. Lorsque tu n'honores même pas Dieu dans ta dîme, tout ce que tu mets ne tiendra pas. Par contre, lorsque tu donnes la dîme, tu vas te mettre la fondation. Par contre, il y a encore autre chose que tu dois comprendre. Il faut encore mettre les murs. Et les murs, c'est la sagesse pour comprendre. Ces principes, on les étudiera par la grâce de Dieu. Parce que Dieu veut qu'on prospère. Une autre raison, c'est que beaucoup de gens restent pauvres parce qu'ils ne comprennent pas pourquoi Dieu veut les rendre riches. Dites Amen. Pourquoi est-ce que Dieu veut nous rendre riches? C'est hyper simple. Pourquoi est-ce que Dieu dit à Israël, lorsqu'ils sortent d'Égypte, prenez tout l'or, tout l'argent, prenez tous les bijoux, les pierres précieuses, tout ce que vous prenez en Égypte, amenez-le. Sortez avec ça. Pourquoi? Il n'y avait pas de supermarché à l'époque. Ils allaient dans le désert. Dans le désert, ils savaient, il n'y a rien. Mais ils prennent plein de bijoux avec eux. Pourquoi? Parce que vous lirez plus tard que lorsqu'ils arrivent dans le désert, à un moment donné, Dieu parle à Moïse et Dieu dit à Moïse, maintenant, construisez-moi une demeure. Construisez-moi le tabernacle. En fait, Dieu les rend riches et prospères. Et eux-mêmes, ils en profitent. Mais avec ce qu'ils ont aussi, ils construisent à Dieu une maison. Maintenant, aujourd'hui, évidemment, la maison de Dieu, ce n'est pas les murs. La maison de Dieu, c'est toi. Vous me suivez? Dieu veut simplement qu'au travers de toi, Christ soit vu. Quelqu'un qui est broke, financièrement, il n'attire pas. Vous savez ça? Quelqu'un qui est fauché. La Bible dit, j'étais écœuré de lire même dans le proverbe que les amis du pauvre l'abandonnent. J'ai dit comment? Et il insiste, hein? C'est écrit partout. Vous savez ça? Dans le Proverbe. Il y a plusieurs passages, je ne les ai pas en tête. Plusieurs passages qui disent que les amis du pauvre l'abandonnent et il est supplié de rester, mais il s'en va. Oh! C'est pas moi qui dis, c'est la Bible. Les amis du pauvre l'abandonnent. Dieu ne veut pas que tu sois pauvre. Mon frère, change de mentalité. Parce que, en fait, il y a déjà eu un échange. À la limite que tu le veux, que tu ne le veux pas, ça a déjà été fait. L'échange qui vient a déjà eu lieu. Christ a été appauvri, il s'est fait pauvre pour que toi tu sois riche. C'est pas moi qui dis. 2 Corinthiens, chapitre 8, verset 9. C'est écrit, je n'ai rien inventé. Il s'est fait pauvre pour que je sois, enfin, pour que Yvan Castanou soit riche. Pourquoi? Parce que le royaume de Dieu a besoin d'argent. Vous savez qu'aujourd'hui, en ce moment où on est là, en Afrique, là, où on est en ce moment, il y a beaucoup de gens qui sont dans le besoin. Il y a beaucoup de gens qui créent des églises, il n'y a pas de Bible. Mais comment on fait pour envoyer des Bibles en Afrique? On se réunit ici et puis on fait, oh, ah là 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 là. Ça ne marchera pas. Il faut l'argent. Vous suivez? L'argent, lorsqu'il n'y a pas de but derrière l'argent, ça devient dangereux pour celui qui tient l'argent. Vous me suivez? Lorsque quelqu'un tient de l'argent sans but dans sa main, il est, c'est dangereux pour lui. Si j'avais pas eu l'occasion d'aller dans une église où on m'a parlé de l'évangile, et cette église n'aurait jamais existé s'il n'y avait pas eu des chrétiens qui s'étaient rassemblés pour mettre de l'argent ensemble, pour construire à Dieu un temple. Jamais j'aurais entendu parler du Seigneur. Et toi non plus. Dites amen. Enfin, on parlera un autre jour. Il y a beaucoup de choses dedans. Je vais seulement donner des petites. Donc, je répète. Qu'est-ce qui s'est passé à la croix? Quel est l'échange qui a eu lieu à la croix? La Bible dit que à la croix, Christ a été, il s'est fait pauvre pour que toi tu sois enrichi. Si tu ne veux pas, tant pis pour toi. Il n'empêche que c'est déjà fait. Dis ta bête. Et quand tu comprends que c'est déjà fait, tu ne pries pas pour demander à Dieu ce qui t'appartient déjà. Je vais parler au point suivant. Amen. Le troisième point par lequel je vais m'arrêter aujourd'hui. Nous parlons d'échange. La Bible dit, Ésaïe 53, je reviens. Ésaïe 53. La Bible dit que Christ a été meurtri dans son corps pour que je sois guéri. Dites amen. On a cloué. On a mis des clous sur lui. On l'a blessé. On l'a rendu malade. Parce que dites-moi, excusez-moi, mais comme vous dites, on va au Kiba. Oui, mais moi, c'est juste que Jésus était malade. Je te fais un test. Prends une pointe. Non, pas une. Prends une pointe, tu mets dans tes pieds, tu mets là, tu mets dans les mains, tu mets là, tu mets partout. Et dis-moi si tu vas pas être malade à un moment donné. Parce qu'il y a une hémorragie. Dites amen. Ça va forcément saigner, ça va forcément te rendre malade. Et Christ a été fait. Il a été rendu malade. Dieu l'a frappé pour que toi tu sois guéri. Ésaïe 53. Verset 5. Verset 4 d'abord. Cependant, ce sont nos souffrances qu'il a portées. Dites amen. Il a porté tes souffrances. Premier point. Il s'est chargé de nos douleurs. Deuxième point. Troisième point, verset 5. La dernière phrase. Et par ses meurtrissures que nous sommes guéris. Alors, maintenant, on va aller lire Matthieu chapitre 8, verset 17. Je suis en train de vous donner les ABC, fondements de la foi en Christ. Matthieu 8, verset 17. Je vais dire à partir du verset 16. Le soir, en emmenant auprès de Jésus plusieurs démoniaques, il chassa les esprits par sa parole et il guérit tous les malades. Regardez, il guérit tous les malades. Tous les malades. Soulignez tout. Afin que s'accomplisse ce qui avait été annoncé par Ésaïe, le prophète, il a pris nos infirmités et il s'est chargé de nos maladies. Dites amen. Ça veut dire quoi? Que Christ a porté nos souffrances, nos douleurs, nos maladies, nos infirmités à la croix pour nous donner la santé et la guérison. Ça veut dire quoi? Que tu n'as plus à accepter une seule maladie dans ton corps. Tu n'as plus à accepter une seule douleur dans ton corps. Tu n'as plus à accepter une seule infirmité dans ton corps. Tu n'as plus à accepter n'importe quel état de paralysie physique ou émotionnelle. Tu n'as plus à l'accepter. Pourquoi? Parce que si tu me dis, il ne faut pas me faire comme le frère italien dont je parlais mercredi en Italie. Il était malade. Il dit, mais frère, Jésus veut te guérir. Il me dit, oh non, non, non. Moi, je vais compléter, je préfère passer mes souffrances pour aider Jésus à compléter ce qu'il n'a pas complété, ce qu'il n'a pas fini encore. Enfin, je préfère à compléter ce que Jésus a fait. Il dit, ah bon? Donc, tu veux dire que ce qu'il a fait, c'était imparfait? Il dit, c'est grave. Amen. Depuis que j'ai compris ça, moi, Yvan Castanou, je n'accepte dans mon corps aucune maladie. Ça ne veut pas dire que mon corps ne sera jamais malade. Souffrant. Non, c'est pas ce que ça veut dire. Ça veut dire que moi, je n'accepte aucune maladie. Maladie, c'est un corps étranger. Je ne suis pas né comme ça. Et même si tu es né comme ça, même les malédictions héréditaires en Christ sont brisées. Vous me suivez? Donc, alors pourquoi est-ce que beaucoup de gens ne sont pas d'accord avec ça, les jeunes? Ouais, mais attendez, la maladie quand même, c'est naturel. Mais j'ai pas dit que c'est pas naturel. Je crois qu'il y a des maladies qui sont normales et des maladies qui sont anormales. Il y a des maladies qui sont simplement naturelles, puis il y a des maladies qui sont démoniaques. Mais quelle que soit l'issue, quelle que soit la source de cette maladie, ne l'accepte jamais. N'accepte pas un handicap physique. Parce que Dieu ne peut pas te guérir. Parce que Dieu dit toujours, il te sera fait selon ta foi. Si tu n'es pas d'accord avec lui, il ne peut rien faire. Le jour où tu dis, moi je ne suis accepte pas cette maladie, et excusez-moi, je vais vous raconter une histoire que je racontais mercredi. Bon, vous étiez déjà là pour ceux qui étaient là. Voyez-vous, quand je me suis converti au Seigneur à 24 ans, dans ma famille, tous les oncles, tous les frères, tout le monde est chauve. Personne n'a échappé. Tout le monde. Dès 18 ans, les cheveux, il n'y en a plus. Je vais d'abord faire là. Voilà. Non, parce que quand je dis ça, je sais qu'il y en a qui commencent à regarder maintenant. Non, attendez. Dans ma famille, tout le monde est chauve. C'est une maladie héréditaire. Moi, le jour où j'ai compris ce passage, j'ai dit, donc la Bible dit que par ses maîtrises, j'étais guéri. Si j'étais guéri, ça veut dire que je ne peux pas porter ce qu'il a déjà porté. Sinon, ça fait double emploi. Comment peux-tu porter ce que quelqu'un a déjà porté? Non, la Bible dit, on est chargé. Amen. Et donc, comme il nous a porté, je ne peux plus les reporter. Alors, quand j'ai compris ça, j'ai dit au Seigneur, Seigneur, moi, je refuse la calvitie. Je n'accepte pas ça. La Bible dit, toutes les paroles de votre tête sont comptées. Comment peut-on compter mes cheveux si on n'a plus? J'ai dit, il faut qu'on puisse compter mes cheveux. J'ai dit, je refuse ça. Alors, j'ai prié, j'ai dit, au nom de Jésus, maintenant, je suis né de nouveau, je suis né du Saint-Esprit. À partir d'aujourd'hui, je ordonne aux cheveux de ma tête de repousser. Parce que j'ai commencé à perdre mes cheveux. J'ai commencé à perdre mes cheveux. Et puis, j'ai commencé à dire aux gens, Dieu m'a guéri, maintenant mes cheveux vont repousser. Et puis, bon, regardez, aujourd'hui, j'ai quand même plus de 30 ans aujourd'hui. Hein. Et Yves et moi, on est les seuls dans la famille qui faisons de la résistance. Vous voyez, bon, j'ai un petit frère, il a 18 ans. Il est déjà chauve, il n'a plus rien. Alléluia. Il n'a plus rien. Moi, j'ai dit, mes cheveux vont rester sur ma tête. Il y a encore... Vous savez, même s'il y a une maladie que tu sens dans ton corps, moi aussi ça m'arrive. Hein? Il n'empêche que je la refuse. Et tout ce que tu ne tolères pas changera. Ce que tu tolères restera là. Ne te plains pas. Dis amen. Tu as le droit à la guérison. Parce que Christ a déjà fait l'échange pour toi. Il faut simplement que, maintenant que l'échange a été fait, il faut simplement que tu rentres dans cette guérison. Et pour ça, il y a des principes à comprendre. Mais le premier principe, c'est d'abord d'être d'accord avec ce que Dieu dit. Quand Dieu dit tu es guéri, toi tu dis oui, mais moi je sens la maladie. Tu n'as rien compris. On t'expliquera ça la prochaine fois, mais tu n'as encore rien compris. Amen. La Bible dit que c'est du fruit de ce lèvre que l'homme sera rassasié. Confesse que tu es encore malade, tu vas rester malade. Moi, jamais. Jamais. Tu montreras là, jamais dit je suis malade. Jamais. 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 Moi, quand ça me demande comment ça va, quand ça va pas bien, je dis la chair est bien disposée. L'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. Pour ceux qui arrivent à décoller, ça veut dire que physiquement, c'est un peu simple, c'est pas évident. Amen. Bref, mon frère, ma soeur, si tu es malade aujourd'hui dans ton corps, sache que Jésus, c'est pas la peine de prier pour Jésus que Dieu te guérisse. Ça vous choque? L'échange a déjà eu lieu. Dès que tu es rentré en Christ, il y a des choses qui sont automatiquement vraies pour toi. C'est un peu comme quelqu'un qui a accès à des allocations familiales. Vous me suivez? Il y en a qui ont des enfants. Quand tu as deux enfants, je crois, en France, tu as droit à des allocations. Maintenant, si tu fasses, que tu entames la procédure pour aller prendre tes allocations, que tu ne le fasses pas, ça te regarde. Mais il n'empêche que les allocations sont là. Elles sont disponibles. Le jour où tu prends conscience, tu dis, oh, mais ça, c'est à moi, j'ai droit à ça. Moi, je réclame mes allocations. On va te les donner. Me suivez? Quand tu vas en banque, tu vas pas supplier le banquier pour ce qui t'appartient déjà. Tu vas pas dire au banquier, s'il vous plaît, monsieur le banquier, donnez-moi de l'argent. Alors que c'est ton compte qui a provisionné. C'est toi qui travaille l'argent de ton compte, tu vas pas dire au banquier, donnez-moi de l'argent, s'il vous plaît. Non, c'est pour toi. Tu dis, monsieur, donnez. Ah, monsieur Castelnau, vous comprenez, c'est quand même un montant important, mais si vous prenez ça, après, il risque de, tu dis, donnez, c'est pas pour vous. Donne mon argent. C'est pas pour toi. Pourquoi? Parce que c'est un droit. Dites amen. C'est un droit parce que on me l'a donné. Je ne l'ai pas mérité, mais on me l'a donné. Alors, j'ai la possibilité. Soit j'accepte de le prendre, soit je n'accepte pas. Mais ne considère rien comme étant une fatalité. Il y a beaucoup de gens qui sont malades dans leur corps, qui considèrent ça comme une fatalité. Ah, de toute façon, c'est pas grave, si c'est la volonté de Dieu. Non! Tant que Dieu ne t'a pas dit, c'est ma volonté que tu restes malade, n'accepte pas. Dis amen. Tant qu'il ne t'a pas parlé personnellement pour dire, dans ton cas à toi, c'est ma volonté, tu n'acceptes pas. Moi, je refuse. Toutes les maladies doivent partir. Alléluia. Parce que c'est compris dans l'échange divin. Par ces meurtrissures, j'ai été guéri. Deuxième point, enfin, là, je vous donne un petit B. Un point petit B qui est très important. Matthieu chapitre 4. Regardez. Matthieu chapitre 4. Verset 24. Suivez-moi bien sur ce point-là. Il est extrêmement important. Quand la Bible dit que vous avez été guéri, ça comprend toute forme de maladie physique. Amen. Que ce soit une paralysie, que ce soit une maladie chronique, que ce soit une maladie héréditaire, elle est dedans. Mais ça comprend également un autre point qui est très souvent sous-estimé. Matthieu 4, verset 24. Je lis. Non, je lis à partir du verset 23. Jésus parcourait toute la Galilée, enseignant dans les synagogues, prêchant la bonne nouvelle du royaume et guérissant toute maladie et toute infirmité parmi le peuple. Regardez, il guérissait toute maladie, pas certaines maladies, toute maladie, toute infirmité. Sa renommée se répandit dans toute la Syrie et on lui emmenait tous ceux qui souffraient de maladies et de douleurs de divers genres. Ça veut dire que si ta maladie n'est pas répétée dans la Bible, c'est dedans, c'est dans moi, dans les divers. Donc tu es concerné. Dis amen. Virgule. On lui emmenait des démoniaques, des lunatiques, des paralytiques, et après paralytique, il y a un point virgule, et il les guérissait. Regardez ce que je vous montre ici, il guérissait qui? Même les démoniaques. Il ne les délivrait pas. Il les guérissait. Dites amen. Bon, vous n'avez toujours pas compris. Bon, on va continuer. Non, on va continuer. Luc chapitre 6. Luc chapitre 6. Je vais vous montrer ce que je veux dire. Luc chapitre 6. Verset 18. Regardez. Luc chapitre 6, verset 18. Vous y êtes? Vous n'y êtes pas? Ceux qui étaient tourmentés par des esprits impurs étaient délivrés. Et vous avez vu qu'il parle de délivrance. Ils étaient les démoniaques. Les gens qui étaient tourmentés par des esprits impurs étaient. On continue. Luc chapitre 8. Verset 2. Suivez-moi bien. Suivez-moi très bien. J'ai bientôt fini. Luc 8, verset 2. Les 12 étaient auprès de lui avec quelques femmes qui avaient été guéries d'esprit et de maladie. Marie dite de Magdala, de laquelle était sortie cette démon. La Bible dit que quelques femmes qui avaient été guéries d'esprit malin et de maladie. Lorsqu'on parle de chasser un démon, en réalité, la Bible appelle ça la guérison. Et quand Jésus était à la croix et qu'il faisait l'échange, et qu'il a dit, la Bible dit qu'il s'est chargé de nos douleurs, nos maladies, nos infirmités, le fait d'être libéré de tout démon était compris dedans. Dites amen. Verset 36 toujours. Toujours dans Luc 8, là. Verset 36. Ceux qui avaient vu ce qui s'était passé leur racontèrent comment le démoniaque avait été guéri. Dites amen. C'est pas affaire de délivrance. Aujourd'hui, dans le monde évangélique, on appelle ça la délivrance. Mais laissez-moi dire une chose. La délivrance, ce n'est pas ça. Parce que ça, c'est ce qu'on appelle la guérison. Chasser un démon, c'est la guérison. Mais c'est compris déjà dans l'échange divin. Vous me suivez? Quand les gens qui n'ont pas compris ça, malheureusement, il y en a plein, ils vont d'église en église, de pasteur en pasteur, de prophète en prophète, de nation en prophète de nation en prophète de nation, d'apôtre en apôtre, de bishop en bishop, tout ça pourquoi? Pour dire, ah, lui, comme il appelle ça l'onction. Lui, comme il a l'onction, s'il m'impose les mains, il va pouvoir me délivrer. Oh Seigneur, tu es déjà guéri de cet esprit impur. Tu ne dois accepter dans ton corps, en tout cas moi, je n'accepte dans mon corps aucun esprit impur. Quand je me suis converti au Seigneur, j'ai dit à tous les démons de l'enfer, présent, passé et futur, vous sortez. Parce que mon corps, c'est le temple du Saint-Esprit. Ce n'est pas le temple de la maladie, hein? Ce n'est pas le temple d'un démon quelconque. Que tu sois mari de nuit, que tu sois femme de nuit, que tu sois malédiction, que tu sois sorcellerie, peu importe, je te dis, tu fous le camp. Je n'ai pas besoin d'aller chercher qu'un homme m'impose les mains. Je n'ai pas besoin. J'ai juste besoin d'aller chercher que la parole rentre en moi et que je la comprenne et que cette parole produise du fruit en moi. Parce que la parole me consume. Qu'il y a un démon qui s'est fait foutre. Et j'ai fait ça pour ceux qui ne le savent pas. J'ai vécu moi personnellement. Quelques mois après ma conversion, j'ai prié, j'étais seul dans ma chambre. J'étais en Italie, j'étais seul. Et j'ai prié, j'ai dit que tous les démons de l'enfer sortent de mon corps. Maintenant, vous qui êtes rentrés dans mon corps par les malédictions héréditaires, par mes parents, parce que j'ai pratiqué dehors, Satan, je ne t'appartiens pas, mon corps est le temple du Saint-Esprit. Ne sais-tu pas qui je suis? Ne sais-tu pas que Christ l'a fait à la croix pour moi parce que mes meurtres, tu es guéri, guéri de toute maladie, de toute douleur, de toute infirmité? Ça veut dire que toi, tu n'as pas le droit de rester. Tu dois sortir. Et quand j'ai dit tu dois sortir, mon corps a commencé. Ah, ce jour-là, j'ai dit, oh purée. Il dit, je crois que je cherchais des palabres ici. Hein? Bon. Il sort, et mon corps a tremblé pendant plus d'une demi-heure. J'ai dit, dehors, ça ne t'appartient pas à moi. Je n'ai pas besoin d'aller demander à quelqu'un de prier pour moi. Ah, parce que, non. J'ai juste besoin de comprendre ce que dit la parole et d'accepter. D'accord avec la parole. Et quand j'étais d'accord avec la parole, j'ai compris qu'il n'y a aucun démon qui pouvait tenir. Aucun. Dis amen. Dis à ton ami, aucun. Dis-lui, aucun. Personne ne tient devant moi. Aucun esprit. Si tu as une maladie physique, si tu as un démon qui te tourmente, ne cours pas de gauche à droite. Comprends ce que je dis. Tu ne le mérites pas, mais c'est déjà pour toi. Parce que simplement le fait que tu sois venu en Christ et que Christ il a déjà fait l'échange, il a porté sur toi, il a porté sur lui les maladies, les douleurs, les infirmités, tous les démons qui pouvaient t'oppresser toi, sont allés l'oppresser lui pendant qu'il était à la croix. De façon que toi, tu sois complètement libéré. C'est pour ça qu'il dit, là, vous connaîtrez la vérité. La vérité vous affranchira, elle vous rendra libre. Cette vérité, c'est ce que je suis en train de te dire. Acquiert la connaissance. Dites amen. Ne cours pas d'église en église, de pasteur en pasteur, de bishop en bishop, d'archibishop. Tu n'as pas besoin de tout ça. Tu as besoin de connaissance. Alléluia. Alors, à cause de ce que je comprends dans la Bible, il y a des choses que je ne tolère plus. Je n'accepte dans mon corps aucune maladie. Les paralytiques ont été guéris. Seigneur, je te dis merci parce que j'ai été guéri. Je ne serai pas guéri, j'ai été guéri. Je ne vois peut-être pas, mais je dis merci parce que c'est en cours de route. Je l'attends dans mon corps. Quand ça me va dans mon corps, je ne serai pas surpris comme beaucoup de gens. Ah, j'ai été guéri, ouh, formidable. Non. Moi, je trouve ça naturel. Je dis, j'ai été guéri, c'est normal, ça fait longtemps que je suis guéri déjà. Ça fait longtemps que je le dis. Maintenant, ceci dit, c'est comme une femme quand elle est enceinte, ça ne voit pas encore, on ne voit pas encore l'enfant, mais 9 mois plus tard, le bébé arrive. Mais il est déjà là. Alors quand je dis, quand je prie, je dis, je ne prie pas pour demander, je prie pour remercier. Dites amen. Je le remercie pour ce qui a déjà été fait. C'est pour ça que je vous dis que la vie chrétienne commence par le repos. Ne cours pas. Oui, j'ai besoin que Dieu guérisse moi. Et puis tout de suite, je demande au Seigneur guérisse moi. Ça, c'est pas la foi, c'est l'incrédulité. Ça veut dire que tu n'as pas la foi. Tu n'as rien compris à ce que Dieu a fait. Et tu es en train de dire, ah, mais Seigneur, guéris-moi. Là, guéris-moi. Tu n'as pas besoin de ça. Il t'a déjà guéri. Ce qu'il faut simplement, c'est que cette guérison soit manifeste. Mais avant, si tu veux qu'elle soit manifeste, première chose, il faut d'abord que tu vois ce que Dieu dit. Et que tu acceptes l'idée que tu es guéri. Beaucoup de gens n'acceptent pas. Ah ouais, mais comment je vais faire? Ça fait tellement longtemps que je suis dedans. Repends-toi. Repends-toi. Ne me demande pas pardon. Repends-toi, ça veut dire change de mentalité. Amen. Change de mentalité. N'accepte pas ça. Amen. Et tu le verras s'accomplir. Il a dit, le ciel et la terre passeront. Sa parole ne passera pas. Je ne suis pas guéri parce que je l'ai mérité, parce que je suis bon. Je suis guéri parce que simplement Jésus a porté à la croix mes maladies, mes douleurs, mes infirmités. Je ne peux plus les reporter dans mon corps. Alors ce que je fais, c'est que je confesse que je suis guéri. Tous les jours de ma vie, je confesse que je suis guéri. Que je le sente, que je ne le sente pas. C'est pas la question. Ce n'est pas un problème. Je continue de confesser ce que je sais. Je confesse non pas la réalité des choses, mais je confesse la vérité. La vérité, c'est ce que Dieu dit. Je regarde non pas aux choses visibles, je regarde aux choses invisibles. Parce que les choses visibles sont temporaires, les choses invisibles sont éternelles, et ce sont elles qui s'accompliront certainement. Amen. Alors arrête de paniquer, arrête de courir. Les 3 points. L'échange divin. Jésus a pris mon châtiment. Il m'a donné la rémission des péchés. Jésus a pris la pauvreté qui m'était destinée. Et quand je rentre en lui, il me communique son abondance. Jésus a pris les maladies qui étaient censées affecter, toucher mon corps. C'était vrai. Mais il les a pris sur lui à la croix. Et il m'a communiqué la guérison. Alors tu crois? C'est bien. Si tu crois, confesse-le. Pas seulement aujourd'hui, mais tous les jours, tu le verras s'accomplir. Amen. Vois-le déjà. Je ne supporte tellement pas la maladie, je ne supporte tellement pas les démons que moi, il y a quel monde qui peut tenir devant moi, par la grâce de Dieu. Et comme je suis un, pas moi seulement, mais nous tous, nous sommes un. Vous me suivez? Nous sommes un parce que nous avons reçu Christ. Et une des particularités de l'onction, hein, quelqu'un qui est un, c'est quelqu'un qui a reçu Christ, c'est tout. Ne mystifie pas ce mot, c'est pas la peine. Il y a qui vous dit, moi je suis l'homme dédié, moi j'ai été un, et moi j'ai l'onction, et puis Dieu m'a montré qu'il y en a qui l'ont... Il n'a rien compris lui-même. Il sait même pas ce que, lui-même, il sait même pas ce que veut dire onction. Nous sommes tous loin dès lors que nous avons reçu Christ. Parce que Christ est loin de l'éternel. Et quand tu le revêts en toi, tu es loin. L'Esprit du Seigneur est sur moi car il m'a loin pour annoncer la bonne nouvelle aux pauvres, pour annoncer aux délivrants, pour guérir les cœurs brisés, pour annoncer aux opprimés, pour annoncer la délivrance aux opprimés, le recouvrement de la, aux aveugles, le recouvrement de la vue, pour envoyer libres les opprimés. Quand je suis loin, quand tu as reçu Christ, l'onction, elle sert à quoi? À enseigner, c'est vrai, mais aussi à briser les choux. Pas en rajouter. Il y a beaucoup de gens qui se disent quoi? Puis quand tu vas à l'église, ah, maintenant tu arrives à l'église, maintenant que tu as accepté Jésus, à partir de aujourd'hui, ne regarde plus la télé. À partir de aujourd'hui, ne mets plus de pantalon. Tu ne mets plus de pantalon. À partir de aujourd'hui, tu dois mettre ci, tu dois faire ça, tu ne mets plus de boucle d'oreille. Ça, c'est ce qu'on a, vous appelez ça ôter des joues? Moi, j'appelle ça mettre des joues encore. La personne vient à toi avec des joues, toi tu peux encore. Attends, ne bouge pas. Maintenant tu as accepté Jésus, prends. Bah, prends d'autres joues encore. Dites amen. Non. Quelqu'un qui est loin, c'est quelqu'un quand il va quelque part. Là où il y a un joug, il ôte le joug. Amen. Amen. Alors on va prier. Tu vas prier pour toi-même. Tu vas confesser. Tu vas dire merci au Seigneur pour ce qu'il a fait. Nous avons vu aujourd'hui 3 points simplement. Il y en a 8. On verra plus tard. Mais tu vas prier. Tu vas dire au Seigneur merci. Et tu vas dire au Seigneur qu'à partir d'aujourd'hui, tu changes de mentalité. Tu es d'accord avec ce que Dieu dit. Si tu es d'accord avec ce que Dieu dit, il a dit le ciel et la terre passeront, ma parole ne passera pas, tu le verras s'accomplir. Si tu n'es pas d'accord avec ce que Dieu dit, mon frère, ma sœur, tu vas rester dans l'esprit. Ça ne sera pas la faute à Dieu, ça sera la faute à toi-même parce que tu n'as pas voulu embrasser, adhérer, tu n'as pas voulu être d'accord avec ce que le Père révèle dans sa parole. Jésus a accompli tout à la croix pour toi, il t'a laissé un héritage. Tu n'as pas mérité, mais c'est pour toi. Tu as le droit de t'en emparer, mais il faut d'abord que tu commences à le voir, que tu changes de mentalité et que tu sois d'accord et que tu obéisses à ses principes et à ses préceptes qui te seront enseignés, que tu comprendras dans sa parole. In the name of Jesus. Je vais vous demander pour ceux qui peuvent, ceux qui veulent bien, de se lever. Ceux qui ne peuvent pas se lever, vous restez assis, mais tu vas commander à ton corps que toute forme de maladie, que toute forme de démon de l'enfer, toute forme de maladie naturelle, peu importe la maladie, la Bible dit que Christ les a portés à la croix, tu vas dire à la maladie, à partir d'aujourd'hui, je refuse de te porter parce que Christ a payé le prix pour moi.